Bonjour à tous. Connaissez-vous la véritable identité de Peter Parker? Vous ne savez pas qui est Peter Parker? Il y en a. Ah, Spider-Man. Peter Parker, c'est Spider-Man. Et vous savez, Peter Parker, dans la fiction, c'est un jeune journaliste qui est tout à fait banal comme vous et moi, et surtout moi sûrement. Et c'est un jeune à qui, un jour, il arrive un événement très particulier, un événement fondateur pour son avenir qui va transformer sa vie. Vous savez, c'est lequel? Une piqûre d'araignée mutante des laboratoires de New York, je ne me souviens plus le nom exact. Et donc il se fait piquer et ça va provoquer des mutations génétiques et Peter Parker va recevoir du coup des super pouvoirs, mi-homme, mi-araignée. Et il y a un deuxième événement très important et qui est fondateur, qui va faire de Peter Parker Spider-Man. Est-ce que vous savez de quoi je parle? La mort de son oncle, exact, je vois qu'il y a des incollables. La mort de son oncle, l'oncle Ben. Son oncle est mort, assassiné dans les rues de New York, et juste avant d'expirer son dernier souffle, il dit une phrase déterminante à Peter. Il lui dit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est ce qui fait que Peter Parker, avec des pouvoirs de super-araignée, devient Spider-Man, le justicier qui sauve les gens dans New York, etc. Croyez-le ou non, il y a un parallèle entre l'identité de Peter Parker, son pouvoir de Spider-Man, sa vie de Spider-Man et la vie de tout chrétien. Le parallèle qu'on pourrait faire est celui-ci. Une grande espérance, un merveilleux salut, implique une grande obéissance. Une grande espérance implique une grande obéissance. La semaine dernière, nous avions vu avec Daniel un texte de la deuxième épître de Pierre. Aujourd'hui, nous allons voir un texte de la première épître de Pierre qui complète, qui Pierre aborde un petit peu ce même sujet de la vie chrétienne, mais en ajoutant quelques petits détails. Et c'est dans ce texte, donc de la première épître de Pierre, dans le premier chapitre, que j'aimerais que l'on aille. Stéphane nous a déjà conduit dans une courte réflexion, méditation, pour conduire notre louange par rapport à la question du salut. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais resituer cette épître dans son contexte. L'Église, nous sommes à peu près en l'an 63, l'Église à qui écrit Rome, donc plusieurs communautés qui sont dispersées dans diverses provinces de l'Empire romain, fait face à l'aube d'une future grande persécution qu'il y aura sous Néron. Mais il y a déjà des poches de persécution un petit peu ci et là dans toutes les provinces romaines où beaucoup de gens sont contre les chrétiens, ne comprennent pas ce nouveau mode de vie, ne comprennent pas qu'ils aient qu'un seul Dieu, que leur Dieu ce soit ce charpentier qui soit mort et ressuscité soi-disant, et donc les chrétiens sont persécutés. Première circonstance à retenir, c'est celle-là. Et Stéphane nous en a parlé au début, on voit dans le texte qu'il y a des personnes qui vivent diverses épreuves. Donc Pierre veut leur parler à ces personnes-là. Deuxième circonstance importante, c'est que Pierre va bientôt mourir. 2 ans plus tard, il écrira la deuxième épître de Pierre, que nous avons vue donc dimanche dernier, où il l'écrit à l'aube de sa mort. Il sait qu'il va bientôt mourir, il le dit, « Je sais que je vais vous quitter subitement, et voici ce que je veux vous rappeler. » Et d'une manière générale, c'est le cas de tous les apôtres. L'Église va perdre tous ses apôtres, tous les témoins directs de la mort et de la résurrection et de tout l'enseignement de Jésus-Christ. Et donc les apôtres ont à cœur que l'Église garde, conserve, reste fidèle à l'enseignement qu'elle a donné et qu'elle ait en plus de ça le comportement digne de cet enseignement-là, digne de cette vérité-là. Parce qu'il y a une troisième raison, c'est que l'Église a déjà en son sein des personnes qui l'infiltrent avec de plus ou moins de bonnes intentions, mais en tout cas qui sont très mal affermis dans la connaissance de la parole et qui tordent le sens des Écritures. Et ces personnes, c'est ce qu'on appelle des faux docteurs, des faux enseignements, ou des faux apôtres, même certaines fois. Et donc ces personnes insèrent dans l'Église, injectent des fausses doctrines. Donc l'Église est en danger de l'extérieur, par la persécution, mais connaît aussi un danger qui risque d'arriver de l'intérieur. Et les apôtres le savent. Et donc Pierre écrit ces deux épîtres qui se suivent un petit peu, qui reprennent les mêmes thématiques aux chrétiens. Donc comme on l'a vu au début, dans les premiers versets, dans les 12 premiers versets, Pierre leur rappelle que malgré les circonstances désastreuses, malgré l'épreuve, ils ont la ferme assurance de leur salut. Malgré tout ce qui peut se passer, vous êtes à Christ, vous êtes sauvés. Et votre espérance est vivante. Ce n'est pas juste comme on l'emploie nous, des fois on espère que ça va marcher. Non, l'espérance chrétienne est en fait une assurance. L'espérance, c'est une assurance que nous avons et qui est vivante. Et donc Pierre va faire découler très rapidement dans son développement où il les console par rapport aux souffrances et très rapidement il va faire découler la suite d'un enseignement avec des conséquences pratiques que nous allons voir ensemble donc ce matin. Je vous invite donc à parcourir le verset 13 d'abord parce que c'est ce qui va faire le lien et nous allons lire, parcourir jusqu'au chapitre 2 et le verset 3 mais pas tout dans les détails malheureusement, on n'aurait pas le temps. Mais on va commencer, on va découper le texte morceau par morceau et je ferai par la suite quelques commentaires. Regardez, verset 13 du chapitre 1 de 1 Pierre. C'est pourquoi, donc vous avez cette ferme assurance de votre salut, il l'a résumé, il a déployé plusieurs choses que Stéphane nous exposait, et il leur dit, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre considère que face à des personnes qui sont dans la persécution, qui vivent diverses difficultés, diverses épreuves, on doit les rassurer par rapport à leur salut, mais il veut aussi leur rappeler leur responsabilité, leur devoir d'obéissance. Et pour comprendre, vous voyez, Daniel avait déjà fait allusion à cette chose-là. Vous voyez, notre texte à ce verset et commence avec « c'est pourquoi ». Et ce « c'est pourquoi » articule ce qu'il y a avant et ce qui vient après. Et dans la Bible, il faut faire très attention à ces marqueurs qu'on a. Les auteurs, très souvent, dans tous les épîtres, écrivent comme ça. Il y a une vérité, une doctrine. Mais cette vérité et cette doctrine a toujours des implications pratiques, concrètes pour nous. Vous savez, même les questions d'eschatologie sur la fin des temps, souvent on se dit « oulala », mais c'était toujours enseigné dans la Bible pour qu'il y ait des conséquences pour mieux vivre aujourd'hui. Tout l'enseignement nous aide à vivre la vie chrétienne. La doctrine a toujours un lien avec la pratique, il ne faut jamais séparer les deux. Et c'est ce que font les apôtres. Il y a un enseignement et donc Pierre va faire découler plusieurs chose de ça. Pourquoi ? Eh bien parce que la vérité se vit au quotidien. L'espérance se saisit. Le commandement s'obéit. Les instructions s'appliquent. Et nous deux sommes appelés à vivre toutes ces choses. Et donc il leur dit, c'est pourquoi ? Saignez les reins de votre entendement. La Bible Sommer traduit, tenez votre esprit en éveil. Saigner, cindre, c'était le verbe qu'on utilise pour mettre sa ceinture. Vous savez, à l'époque, les gens étaient habillés de tuniques. Et on mettait une ceinture quand on allait soit au combat, soit pour faire de longues marches, soit pour faire un dur labeur. Tout simplement pour ne pas se prendre les pieds dans sa tunique et tomber. Quand vous imaginez, vous êtes sur un champ de bataille, vous courez, vous prenez les pieds dans la tunique devant l'ennemi. Bon, c'est un gros cadeau, quoi. Donc, il faut mettre sa ceinture. Et là, donc on pourrait un petit peu traduire, mettez une ceinture à votre cerveau. Mettez une ceinture à votre esprit, à vos pensées. Ne vous prenez pas les pieds dans vos pensées ou dans vos émotions. Mettez une ceinture. C'est donc un appel à se préparer à faire un effort aussi intellectuel. Pourquoi ? Je noterai juste deux réponses, on pourrait développer énormément ça, mais juste deux réponses. Dans la difficulté, dans l'épreuve, dans des circonstances vraiment pas du tout agréables, Il est très facile pour nous de suivre nos pensées, nos émotions et d'aller rechercher un réconfort illusoire dans un péché. Moi, en tout cas, c'est la grosse tendance. Naturellement, c'est ce que je désire faire. Je vais vous dire quelque chose de façon très sincère. Avant, j'étais quelqu'un qui se droguait. Je fumais du cannabis. Ça fait 7 ans que je me suis converti. Grâce à Dieu, je ne fume plus et il m'a vraiment délivré de tout ça. Mais j'ai vécu pendant plus de 10 ans avec ça. Et je vous le dis sincèrement, quand des fois je suis dans des épreuves ou que j'ai un gros ras-le-bol ou que je suis énervé, il y a des flashs où je me rappelle cette époque où j'allais fumer pour me réconforter. Et si je suivais ces flashs-là, ces pensées qui me reviennent d'avant, ça serait horrible. Mais parce que je sais que j'ai été délivré, je maintiens tout ça et je sais que ce n'est plus moi. Dieu m'a délivré de tout ça et ce que je vis aujourd'hui est bien plus excellent que ce que je vivais à l'époque. On a tous des comportements ou des attitudes face aux autres, des choses qu'on peut nous dire, on peut avoir ces relents de péché qui viennent si facilement. Et donc c'est ça, être sobre aussi. Deuxième raison, c'est que nos pensées, nos émotions, nos avis même, ne reflètent pas forcément la vérité, la réalité. On peut se faire abuser par nos pensées et par ce que l'on croit à propos de Dieu. La foi engage notre esprit, notre réflexion avant tout. Parce que le plus important, c'est ce que l'on sait. Et c'est ce que s'évertue Pierre dans ce premier chapitre, c'est de rappeler à ces chrétiens qui sont dans l'épreuve ce qu'ils savent, ce qui est la vérité. Parce que c'est celui en qui on croit qui nous sauve. Et il ne faut pas tordre cette vérité-là, cette réalité-là de ce que Christ a fait pour nous sur la croix, qui nous est imputé, qui nous est transmis par la foi, ce salut-là, parce qu'on doute. Vous voyez, tout simplement, on peut se sentir impardonnable, parce qu'encore une fois, on a péché par rapport à tel ou tel truc, et pourtant on avait promis au Seigneur, on s'était engagé à ne plus retomber dans tel péché. Et on peut se sentir impardonnable, ou on peut sentir Dieu loin de nous. Mais est-ce que c'est la vérité ? Non. Dieu reste le même, et il est toujours là. Et nous sommes pardonnés, purifiés par le sang de Christ. Ça, c'est la vérité. Mais on peut oublier et tordre cette vérité. Donc, il leur rappelle qu'avant tout, ils doivent ceindre leur esprit et avoir donc une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous êtes sauvés et à son retour, vous serez avec lui. Vous inquiétez pas. Luther disait qu'on ne peut empêcher des oiseaux de venir voler au-dessus de notre tête, mais par contre qu'on peut les empêcher de venir faire leur nid sur notre tête. C'est exactement ça. Et puis donc, le lien établi, Pierre va développer 4 raisons d'engager tout notre esprit dans l'obéissance et dans ce désir de conformer nos pensées à celles du Seigneur et, comme dit Paul, de mener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et donc, nous allons lire les versets 14 à 16 et vous allez voir la première raison. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. » Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Première raison d'avoir une obéissance conforme à notre espérance, c'est parce que Dieu est saint. Pierre cite le commandement qui est un refrain dans le livre du Lévitique. Vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y avait de l'infiltration de faux docteurs qui amenaient des fausses hérésies. Et une des hérésies qu'ils amenaient, c'était que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu de lois, et il avait des lois morales, il avait des lois liées à toutes les questions des sacrifices, des lois sociales, etc. Et que maintenant, Jésus était mort pour nous, et donc il n'y avait plus de loi. Nous étions sous la grâce, et c'était une grâce qui permettait de faire tout ce qu'on veut, n'importe quoi, tout ce qui est immoral. On est sous la grâce, Jésus est mort pour nous. Ça s'appelle l'antinomianisme. Si vous voulez le ressortir à midi, ça sera pas mal dans le repas. Et donc, il y avait cette antinomie entre le Dieu avant la croix et après la croix pour ces personnes-là. Ils enseignaient ça dans l'Église. Et Pierre rappelle que Dieu est saint, que le commandement qui était adressé dans l'Ancien Testament est toujours valable pour les chrétiens. Soyez saints parce que je suis saint. Et la sainteté de Dieu, ça veut dire que Dieu est parfaitement étranger à tout mal. Dieu est le mal et il est parfaitement séparé du mal. Et face au mal, il n'a qu'une seule réaction, c'est sa sainte colère. Vous imaginez d'ailleurs, qu'est-ce que ça donnerait d'adorer un Dieu qui tolère le mal ? Un Dieu qui ne soit pas saint, est-ce qu'il serait digne de toute notre adoration ? Non. Mais Dieu est saint et il recherche dans tout ce qu'il fait à manifester sa gloire. Et l'homme a été créé parce que Dieu voulait manifester sa gloire, sa sainteté à l'homme. Et l'homme a été créé à son image pour lui aussi manifester sa sainteté. Et le péché, la chute, a cassé tout ça. Christ est venu le réparer. Et donc l'objectif pour nous, c'est toujours de chercher à être saint. Être saint parce que Dieu est saint. Et ça implique deux choses. Il dit, voyez, vous rejetez les convoitises d'autrefois, donc ne plus vous comporter comme avant votre salut, comme avant tout court, même avant la repentance, quand Dieu vous a montré votre péché, vous détournez de ça, et puis recherchez dans toute votre conduite, tous les aspects de notre vie doivent être mis pour rendre gloire à Dieu. Tout. Est-ce que vous connaissez la différence entre une brebis et un porc ? Bon, la différence, en fait, il y en a l'infini, mais il y en a une que je voudrais vous partager. Une brebis ou un agneau, quand elle tombe dans la boue, dans une flaque de boue, tout de suite, elle se relève et elle s'en va. Parce que se vautrer dans la boue, ce n'est pas ce qu'elle aime. Par contre, le porc, lui, il y a une belle flaque de boue, plus elle est profonde, mieux il est. Il aime se vautrer dedans. Et le salut, c'est ça. C'est que nous étions des porcs qui sommes devenus des brebis. Et nous ne pouvons pas nous complaire dans ce quoi nous étions à l'époque. Vous comprenez, ces pratiques, ces péchés-là, il peut nous arriver de tomber dedans. Et c'est pour ça qu'il y a l'appel toujours à la repentance, à sortir tout de suite de la flaque de boue. Alors que le porc, lui, s'y complaît. Et si on se complaît de ça et qu'on se moque de cet appel à la sainteté mais qu'on veut le salut, c'est peut-être que l'on n'a pas vraiment saisi ce que c'est le salut et ce qu'il implique pour nous. Ce rejet du péché, ce désir de vouloir ressembler à Dieu, de participer à la nature divine comme Daniel nous l'avait enseigné la semaine dernière. C'est donc une invitation pour nous, encore aujourd'hui, à sonder notre comportement, nos activités, nos relations, pour savoir si au travers de tout cela, nous cherchons à être saints dans notre conduite, d'avoir une conduite qui plaise à Dieu et qui lui rende gloire. Mais c'est possible par la grâce, et c'est lié à tout l'enseignement qu'on a vu avant. Notre grande espérance implique une grande obéissance, parce que Dieu est saint, c'est la première raison. Et regardez maintenant la deuxième raison, et je poursuis la lecture des chapitres du verset 17 à 21. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Pierre leur a rappelé que Dieu est saint, il leur rappelle que Dieu est leur père, mais qu'il est aussi juge. Dieu est père, mais Dieu est aussi juge. Ce sont les deux facettes d'une même pièce. Et pour que le juge devienne père, il a fallu que son fils meure à la croix pour nous. Il est juge, et comme il le dit, la base de son jugement, c'est les œuvres de chaque homme. Chaque homme est jugé devant Dieu individuellement sur la base de ce qu'il fait. Et la grande nouvelle, c'est que personne ne peut passer ce test-là. Nous sommes tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu, tous coupables. Romains, tout le chapitre 3 jusqu'à 5, etc., développe toute cette doctrine-là. Nous sommes tous pécheurs et donc tous coupables et nous méritons tous d'être jugés et condamnés. Et il leur rappelle que pour que Dieu devienne leur père, il a fallu que Dieu paye. Et il a payé pour notre salut du sang de Christ. Dieu, en fait, si on y réfléchit bien, nous a avant tout sauvés de Dieu. Dieu nous a sauvés de Dieu. Il nous a sauvés de sa colère que nous méritions. Et sa colère, il l'a déversée sur Christ, qui a pris notre place de coupable, alors qu'il était innocent devant le juge. Et Dieu lui a imputé tout le péché, et il est mort, et il est ressuscité pour offrir ce sacrifice parfait à Dieu qui satisfait sa justice. Quelle démarche d'amour! En plus, il nous le rappelle, ce n'est pas un plan B, c'est quelque chose que Dieu avait prévu avant la fondation du monde, avant la création. Ce n'est pas une réaction de Dieu qui a été pris au dépourvu ou qui est déçu et qui veut faire quelque chose d'autre. Dieu l'avait prévu avant la fondation du monde, que son Fils mourrait. Et quelle manifestation de sa grâce et de son amour pour nous, que Dieu ait décidé de ce plan-là. Et pour Pierre, c'est une raison extraordinaire de nous rappeler que Dieu est notre Rédempteur pour nous conduire dans l'obéissance. Et je réalise qu'une des choses à chaque fois dans ma vie, encore et encore, Stéphane le disait, j'ai besoin de plonger mes yeux dans ce merveilleux salut et de m'en rappeler tout le temps pour me motiver, parce que je comprends vraiment qui est Dieu et je découvre qui il est, ce qu'il a fait pour moi, le prix que ça a coûté son salut. Rien ne pouvait me racheter, rien, strictement rien, sauf le sang de Christ. Et Dieu n'a pas hésité, il l'avait prévu avant la fondation du monde. À cause de vous, dit Pierre, par amour pour vous. Quel message, quel moteur pour nous. Première raison de se comporter, d'avoir une grande espérance, notre grande espérance qui implique une grande obéissance, c'est parce que Dieu est saint. Et la deuxième raison, c'est parce que Dieu est notre Rédempteur. Et la troisième raison, il la développe dans les versets qui suivent, les versets 22 à 25. La troisième raison, c'est parce qu'il nous a régénérés. Je vous lis à partir donc du verset 22 à 25. « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, pour la parole, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car » Alors là, vous voyez, vous avez peut-être un italique ou un retrait dans votre Bible, dans le texte. Il fait une citation du prophète Ésaïe. Il cite le Ésaïe, chapitre 40. « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Troisième raison de conformer notre obéissance à notre espérance, c'est parce que nous avons été régénérés. Alors, je n'ai pas le temps de développer, rien que sur cette partie-là, il y aurait tellement de choses, et je vous assure, je me suis fait prendre, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à regarder juste ce passage-là par rapport à Ésaïe, et pourquoi il cite Ésaïe à ce moment-là, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, je vais vraiment résumer, parce que le quatrième point sera notre conclusion, donc les premiers versets du chapitre 2. Donc, je n'ai pas le temps de développer, mais voici ce qu'il nous dit. C'est que nous avons été régénérés. Cette régénération, ça veut dire que nous sommes nés de nouveau, nous nous sommes convertis, nous avons reçu le Saint-Esprit. La régénération, c'est ça. Et que cette nouvelle vie implique des relations nouvelles, des relations marquées par l'amour. Et en fait, je me suis posé un petit peu la question, pourquoi est-ce qu'avec la régénération, tout de suite, il parle de l'amour fraternel ? On aurait pu parler de l'amour vis-à-vis de Dieu encore ou quoi. Mais il l'a déjà développé, ça. Mais une nouvelle relation avec Dieu, hein, une nouvelle relation verticale, implique une relation horizontale aussi toute nouvelle, qui doit avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes marques que notre relation avec Dieu. Un amour sincère, un amour ardent vis-à-vis des autres, de nos frères et sœurs, vis-à-vis de ceux pour qui Dieu a payé la chose la plus précieuse. Il a payé avec le sang de son Fils, pour celui qui est à ma droite ou celui qui est à ma gauche. celui avec qui je vis dans ma vie, la vie chrétienne avec qui je prie, je vis cette vie dans les groupes de quartier, dans les moments de prière, donc quand on se voit, cette vie de communauté. Dans la communauté, il doit y avoir des relations qui portent le sceau de notre relation avec Dieu. Nouvelle identité, nouvelle relation. Et l'idée, vous avez vu, c'est que nous avons été régénérés par sa parole. C'est-à-dire, alors, je me suis aussi posé la question, parce qu'il y a certains endroits, la Bible nous dit que nous avons été régénérés par l'Esprit. C'est l'Esprit qui vient en nous et qui nous mène à la nouvelle naissance. Et là, il dit que c'est la parole. Mais c'est très simple, en fait. Littéralement, l'Esprit de Dieu, c'est le souffle de Dieu. C'est Dieu qui souffle. C'est le souffle de Dieu. Et que souffle l'Esprit de Dieu ? Il souffle la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul dit en Romains 10 que ceux qui sont loin et qui n'ont pas entendu l'évangile ne pourront pas être sauvés si on ne va pas leur annoncer ce message que l'Esprit veut leur souffler. C'est pour ça que Pierre, je suppose, se rappelle aussi l'enseignement de Jésus quand il parlait de la parabole du semeur, où il dit que en fait, Dieu sème sa parole pour faire grandir, pour faire pousser. Et c'est aussi d'ailleurs le Saint-Esprit qui a inspiré tous les auteurs de la Bible. Notre Bible est le fruit de l'inspiration du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit fonctionne avec la parole de Dieu. Si nous voulons entendre l'Esprit dans notre vie, mettons-nous aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Ils fonctionnent ensemble. Et donc j'arrive à mon dernier point qui sera notre conclusion. Dernière raison donc, qui conclut cet argumentaire, donc c'est les versets 1 à 2. Mais avant, je voudrais juste vous faire une allusion par rapport à Ésaïe 40. La parole qui est citée, donc vous êtes comme l'herbe et la parole de Dieu, elle, est immuable, est une parole que le prophète Ésaïe a dite, qui concerne, donc c'était 8 siècles avant Jésus, et qui concerne le peuple de Dieu quand il a été déporté suite à sa désobéissance. Il est déporté à Babylone. Et Dieu leur dit, je vais vous libérer. Je vais vous libérer. Quand on lit la suite, il parle d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il s'occupera d'eux comme d'un berger. Et donc, il y a ce premier accomplissement qui était matériel, c'est qu'effectivement, après 70 ans de déportation, le peuple qui était à Babylone a pu revenir en Israël parce que Dieu était fidèle à sa parole et qu'il les a sauvés selon sa parole. Vous comprenez ? Et c'est un accomplissement matériel. Il les a sauvés de la prison des Babyloniens. Et là, Pierre, il dit, cette parole-là, elle est aussi pour vous, c'est l'Évangile. C'est qu'elle a aussi un accomplissement qui était premièrement matériel, mais aussi pour vous, ça préfigurait le salut. C'est que Dieu vous libère aussi de votre péché. Il vous a sauvé par sa parole. Vous comprenez le lien ? J'espère avoir été clair et pas trop compliqué, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et d'ailleurs, je vous encourage, quand vous lisez un texte dans votre Bible et que vous voyez qu'il y a une citation, que c'est mis en italique ou un petit peu décalé, vous voyez, en général, les traducteurs ont fait en sorte qu'on les voit bien, ça vaut le coup de s'arrêter et de regarder le lien qu'il y a, en général, c'est marqué dans la marge, et d'aller voir dans l'Ancien Testament dans quel contexte c'était dit et pourquoi. Se dire, pourquoi est-ce que Pierre a voulu citer ces versets-là à des chrétiens, quoi. Vous comprenez ? Ok, dernière raison qui conclut cet argumentaire de Pierre. Rejetant donc, je lis à partir du chapitre 2, verset 1, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Ou plutôt, « Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. » C'est une hypothèse, c'est formel. « Vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Il vous a régénéré, donc désirez sa parole comme du petit lait. D'accord ? Donc, première raison, parce que Dieu est saint. Deuxième, parce que Dieu est rédempteur. Troisième, parce que Dieu nous a régénérés. Et troisième, c'est logique, parce que vu qu'on est régénéré. Quatrième, c'est logique, vu qu'on est régénéré, nous sommes des petits-enfants. Nous sommes des bébés. Pourquoi conformer notre espérance, notre obéissance à notre espérance ? Parce que nous sommes des bébés. L'image qui est donnée là, c'est le lait spirituel, ou ça peut être traduit le lait de la parole. Le lait de la parole, c'est ce qu'il vient de citer juste avant, et de l'ensemble de la parole, on peut tout à fait l'élargir. En fait, l'image qu'il emploie, c'est celle de mon fils Sam. Samuel, il a moins d'1 an. Alors, je vous promets, Sam, il est adorable. C'est vraiment un petit gars qui est vraiment super. Mais le matin, quand il se réveille, Samuel, il a faim. Il désire le lait de sa maman plus que toute autre chose. Et il crie après ça. Et ce qui est excellent, Marion dit souvent cette expression, elle dit « il rit aux anges quand il a fini ». Vous savez, il fait la tétée, et puis quand il a fini, il balance le bras en arrière, il a les yeux à moitié retournés, un sourire béat, et il est bien. Il est bien. Pourquoi ? Parce qu'il a satisfait un besoin vital. Et qu'en plus, c'est quelque chose de délicieux et de bon. Alors moi, je garde aucun souvenir de cette époque-là, mais je regrette, parce qu'apparemment, c'est vraiment extraordinaire. Mais cette parole, vraiment sérieusement, cette parole, cette image que dit Pierre, priver un enfant de nourriture, vous imaginez ? Est-ce qu'on peut imaginer une spiritualité privée de l'Écriture ? Est-ce qu'on peut s'imaginer grandir dans la foi, grandir dans notre maturité spirituelle en étant privé de l'Écriture ? Notre spiritualité est fermement et intimement liée à l'Écriture, à Dieu qui s'est révélé par son Esprit à nous. C'est cette parole qui nous a engendrés, dit Pierre. Par la parole, nous avons été conduits à la nouvelle naissance. Et Pierre dit, par la parole, Dieu nous permet de grandir, de croître dans notre salut. Vous avez goûté que Dieu est bon, donc goûtez encore plus à sa parole. C'est ça qu'il dit, vous avez goûté que c'était bon, donc goûtez-en encore plus, rassasiez-vous pleinement. Ce texte, je crois, nous invite à réaliser que dans la parole, nous avons absolument tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu tel qu'il veut être connu et pour pouvoir mettre en pratique et pour pouvoir vivre la vie qu'il désire que l'on vive pour sa gloire. Parce qu'il nous a sauvés pour lui, nous lui appartenons. Et Pierre, par ce dernier commandement, c'est pour ça que je voulais aller jusque-là, donne le moyen de vivre ces trois autres commandements. Comment rechercher cette sainteté ? Comment arriver à maintenir son esprit en bride, à concentrer nos paroles sur Dieu et sur sa volonté ? Comment se renouveler dans notre connaissance du salut ? Comment se renouveler pour avoir des relations fraternelles empreintes d'amour et de service et de solidarité dans un contexte d'autant plus pour eux qui était particulièrement hostile ? Comment goûter que Dieu est bon ? Par sa parole. Sa parole est un moyen de grâce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse mieux le connaître. Sonder les Écritures, c'est sonder Dieu lui-même. Est-ce qu'on réalise ça ? En sondant les Écritures, on sonde la pensée de Dieu lui-même. Une grande espérance implique une grande obéissance. Alors par où commencer ? Si on se sent dans le décor, on a l'impression que notre vie, ça fait un moment qu'elle n'est pas en règle, on sent qu'il y a une incohérence entre ce qu'on croit et ce que l'on vit, par où commencer ? Revenir à sa parole. C'est un guide. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Et je sers ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, disait le psalmiste, psaume 119, je vous invite à le relire, commencez par là, par exemple, ça peut être une piste concrète. Commencez par le psaume 119, pour voir à quel point la parole de Dieu est vitale pour nous. Et je conclue avec cette citation de John Bunyan, un prédicateur anglais puritain, qui disait ceci, « Le péché vous tiendra écarté de ce livre, ou ce livre vous tiendra écarté du péché. » Prions.